Bonjour à chacune et chacun. J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous irez encore mieux après le message. J'arrive pas à remonter le pupitre. Oh, dis donc. Ça y est. Ça y est. Cette année, on est dans ce thème général, un pas à la fois. Et ce matin, je vous invite à voir cinq mots qui sont difficiles à prononcer. Prestidigitateur. Inéligibilité. Phénylalanine. Désoxyribonucléique. Ne me demandez pas toutes les significations, mais ce sont des mots qui existent. Et le dernier mot, pardon. Waouh. Et oui, c'est difficile de dire pardon. C'est pas la même difficulté que pour les autres mots. C'est pas une difficulté de prononciation. C'est une difficulté d'acceptation. Une difficulté qui se passe au niveau de notre cœur et pas au niveau de notre langue. Mais c'est probablement une difficulté bien plus grande à vivre. Vous l'avez deviné, le thème du message de ce matin, c'est le pardon. Le pardon qui est à pratiquer entre nous. Le pardon que nous recevons de notre Dieu, c'est un autre sujet. Et même s'il y a beaucoup de points communs entre ces deux sujets, c'est quand même un autre sujet. Et ce matin, on traitera le sujet du pardon, le pardon qui est à pratiquer entre les personnes. Alors en 2015, j'avais déjà donné un message sur le thème du pardon. Mais voilà que depuis 2015, j'ai vécu une situation personnelle dans laquelle j'ai été amené à vivre ce processus du pardon. Et le fait de le vivre m'a permis d'avoir une compréhension non seulement plus pratique, mais surtout plus profonde de ce que représente le pardon et de la façon comment on a à le vivre. Il y a environ 2 ans, j'ai rencontré plusieurs personnes que je n'avais pas revues depuis très longtemps, depuis 30, 35 et même 40 ans. C'était des personnes que j'ai connues dans le groupe de jeunes de l'église dans laquelle j'ai grandi. Et puis voilà, les circonstances ont été que je suis arrivé dans la région, j'ai plus tellement de contact avec cette église. Mes parents, à l'époque, ont changé d'église. Donc quand je retournais les voir, on allait dans l'église à laquelle ils allaient, puis l'église dans laquelle j'avais grandi, finalement, je n'avais plus tellement de contacts. Et puis il y a 2 ans, avec Anne-Marie, on a été invités à un mariage d'un petit cousin qui se mariait dans cette famille d'église. Et voilà comment j'ai retrouvé les personnes que j'ai connues quand j'étais jeune. Et en échangeant avec une de ces personnes, j'ai appris la vérité sur une situation que j'ai vécue il y a 40 ans. Waouh ! On m'avait caché la vérité sur ce que j'avais vécu et sur une chose qui avait été très douloureuse en plus. Et là, j'ai pris conscience que le fait qu'on m'avait caché cette vérité m'avait empêché finalement de vivre ce que j'aurais voulu vivre à l'époque. Alors vous savez, quand on découvre un truc pareil, on passe par différents états. Et je ne fais pas exception à la règle. Ces états d'âme, vous l'imaginez bien, c'est la révolte, la rancœur et puis tout ce qui va avec. Mais je savais au fond de moi que la vie et la lumière dans ces situations passent obligatoirement par le pardon. Et je dirais même par un processus de pardon. Ce n'est pas simplement « je te pardonne », c'est tout un processus. Et si le thème du message de ce matin, c'est le pardon, le titre, j'aimerais dire, c'est le coût du pardon. Parce que le pardon a un prix. Et je souhaite ce matin vous partager ce que j'ai vécu à cette occasion. Par rapport à ce que ça coûte de pardonner, par rapport à toute cette notion du prix et du coût du pardon. J'ai donc entamé un processus de pardon et d'acceptation de la situation vécue. Alors je reviendrai un petit peu plus loin en détail sur la question de l'acceptation qui est aussi très importante. Je vous propose pour ce matin, dans un premier temps, de reprendre les bases du pardon que l'on trouve dans la Bible, et de façon toute concrète, avec l'exemple de Joseph. Et à la fin de cet exemple de Joseph, on verra de façon toute pratique ce que j'ai compris pour ma vie personnelle, et qui touche le sujet du prix du pardon, du coût du pardon. Quel est vraiment le prix du pardon que Dieu me demande de vivre et de donner ? C'est ça la question. Qu'est-ce que cela me coûte de pardonner ? Alors, la vie de Joseph est une histoire magnifique que je vous invite à lire ou relire. Ce sont les chapitres 37 à 50. Et ouais, 14 chapitres quand même. Il y a dans la vie de Joseph beaucoup de points que l'on retrouve dans la vie de Jésus. C'est très intéressant. La vie de Joseph, c'est un truc, c'est... Là, il y a un message, mais je ne vais pas en aborder le dixième, quoi. C'est immense. Et beaucoup de commentateurs disent que la vie de Joseph est une préfiguration de l'œuvre de Christ. Alors, rassurez-vous, je ne me compare pas du tout à Joseph. Le pardon, c'est vrai, c'est un sujet immense. Tout ne peut pas être abordé en quelques dizaines de minutes. J'ai donc fait des choix. Je suis loin d'être exhaustif. Ce que je n'aurais pas dit, ce n'est pas parce que je ne l'ai pas dit que ça n'existe pas. Je vais aborder un petit bout du pardon. Alors, pour commencer, quelques bases d'une juste compréhension du pardon dans la Bible. Tout d'abord, le pardon, c'est un ordre. Le pardon est pour nous un ordre clair. On lit ça dans Matthieu 6, les versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Waouh ! Comment comprendre cette parole de Jésus ? À première lecture, elle paraît dure, elle paraît même impossible à réaliser. Et je pense sincèrement que par nos propres forces et nos propres natures, je ne crois pas qu'on soit capable de pardonner. C'est quelque chose qu'on doit recevoir. Mais en fait, le pardon, il est basé sur le pardon que l'on a reçu de Dieu. C'est comme si notre capacité à pardonner était en lien avec notre conscience du pardon que nous avons nous-mêmes reçu de Dieu lui-même. On peut donc pardonner car on a déjà été pardonné par Dieu. De la même façon que l'on peut aimer, car on a d'abord été aimé par Dieu. Il y a des analogies très intéressantes entre le pardon et l'amour. Lisons donc dans Colossiens 3, les versets 12 à 15. « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais au-dessus de tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et là, on voit que pardon et amour, ça va ensemble. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Le pardon, c'est donc un ordre, mais c'est un ordre qui ne peut être accompli qu'avec le cœur. On ne peut pas l'accomplir avec la tête. Disons, il faut déjà le vouloir, puis ensuite il faut le vivre. Il doit descendre le pardon. Deuxième point, le pardon est au cœur du plan de Dieu. Le pardon, c'est plus qu'un autre. Qu'un ordre, il fait partie de ce que Dieu désire que nous vivions entre nous, au même titre que l'amour et l'unité. La pratique du pardon fait partie du plan de Dieu dans la façon comment nous gérons nos relations entre nous. C'est comme si le pardon et l'amour sont des conditions nécessaires afin que l'unité se manifeste et se développe entre nous. Le pardon et l'amour sont intimement liés. Et c'est Martin Luther King qui disait écoutez bien, c'est très intéressant. Il faut développer et entretenir la capacité à pardonner. Celui qui en est dépourvu est dépourvu de la capacité d'aimer. Le pardon et l'amour sont liés dans le sens où on ne peut pas aimer sans pardonner. Et de la même façon, on ne peut pas pardonner sans aimer. Le pardon, ce n'est pas quelque chose de froid. C'est quelque chose que l'on vit de l'intérieur. Lisons Jean 13, les versets 34 à 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On remarque que Christ donne ce commandement de s'aimer comme lui nous aime. Et comment l'amour de Dieu se manifeste-t-il pour nous? 1 Jean 4, versets 7 à 11. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. De la même façon que Dieu a réalisé son amour pour nous en donnant son Fils, et donc en nous offrant le pardon, nous avons nous aussi à pardonner réciproquement, à nous pardonner. Alors là, il y a une question que je voulais quand même aborder, on va la passer rapidement, mais qui m'était difficile de ne pas aborder, c'est la question, peut-on pardonner si on ne nous demande pas pardon? C'est une question pour laquelle mon point de vue a changé il y a une dizaine d'années, je dirais. Cette question est brûlante, je pense, pour beaucoup de personnes. On pourrait penser que si le coupable ne demande pas pardon et ne se repent pas, aucun pardon n'est accordé, aucune réconciliation n'est possible. La relation ne peut pas reprendre, même si la victime désire pardonner de tout cœur à son offenseur, comme Jésus l'avait fait sur la croix. Pourtant, le pardon libère. Le pardon de la personne offensée libère l'offenseur de la chaîne que représente l'offense. Et en guise de réponse, je vais juste vous donner un exemple qui me paraît suffisamment clair à ce sujet. On le trouve dans Actes 7, le premier martyr. Lorsqu'Étienne a été lapidé, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qui s'est passé. Actes 7, versets 59 et 60. Il jetait des pierres à Étienne qui priait et qui disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Étienne, au moment de mourir, a dit « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et figurez-vous que Saul de Tarse, qui était un des participants de sa lapidation, évidemment, il n'était pas du tout dans une attitude de demande de pardon. Et pourtant, Étienne lui a pardonné, sans attendre, ainsi qu'à tous les autres. Plus tard, Saul de Tarse a été touché par le Saint-Esprit. Il s'est converti et on connaît tout l'impact qu'il a eu sur l'Église entière puisqu'il est devenu l'apôtre Paul. Eh oui. Donc la réponse me paraît suffisamment claire. Maintenant, on arrive à l'exemple de Joseph. Et la question qui viendra après sur le coût du pardon. Qu'est-ce que Joseph a vécu de la part de ses frères? Qu'est-ce qu'il a dû supporter? Surtout, quelles sont les étapes par lesquelles il est passé pour vivre et finir par partager le pardon à ses frères. Voyons déjà le contexte de la famille de Joseph. Alors Joseph, c'est l'histoire ancienne, hein, c'est Genèse, c'est le temps des patriarches, c'est il y a bien longtemps, et on voit, c'est super intéressant de voir tous ces versets, c'est mieux que les films à la télé, parce que c'est il y a plein de rebondissements, et quand on creuse un petit peu ces chapitres, on se rend compte qu'ils ont vécu des trucs incroyables, quoi. Déjà, à l'époque, la présence du péché était extrêmement importante. C'est surprenant, quoi. Joseph a grandi dans un contexte familial difficile. On découvre, en lisant ces chapitres, que son père, Jacob, avait 4 femmes. Waouh, sympa l'ambiance en famille. Jacob, il aimait Rachel, une de ses femmes. La mère de Joseph, il l'aimait plus que les autres. Au moment du début de l'histoire de Joseph, donc ce qui va aller jusqu'au moment où ses frères l'ont vendu, au moment du début de l'histoire de Joseph, Rachel n'a qu'un seul fils, Joseph. Joseph est donc le préféré de Jacob, son père. Et oui, l'amour de Jacob n'est pas le même pour chacun de ses enfants. Là aussi, sympa l'ambiance. Et puis Joseph, il a eu beaucoup d'enfants. Hein. De Léa, sa première femme. Jacob a eu beaucoup d'enfants, puisque de Léa, sa première femme, il avait eu en tout cas 10 garçons, 10 hommes. D'autre part, Joseph rapporte à Jacob les mauvais propos de ses frères. En fait, il raconte les mauvais propos de ses demi-frères, finalement, puisque ce n'était pas la même mère. Tout ce contexte complexe et tendu envenime évidemment les relations entre eux à tel point que les frères de Jacob étaient incapables de lui parler sans agressivité. C'était quand même un niveau de tension, j'imagine, assez important, qui faisait partie de leur vie de tous les jours. Après cela, Joseph a fait 2 songes, et 2 songes dans lesquels il est, lui, le plus jeune fils, clairement dans une position de supériorité par rapport à tous les autres membres de la famille, parents compris. Et Joseph, naïvement, raconte ces 2 songes à toute sa famille. Donc, pour rajouter une couche à la tension qu'il y avait déjà, il n'y avait pas mieux, quoi. Maintenant, voyons ce que Joseph a subi. À un moment donné, tous les frères se sont retrouvés dans un lieu éloigné de la maison de Jacob pour garder les troupeaux. Ils étaient bergers. Joseph est venu leur rendre visite suite à la demande de Jacob. Et lisons l'accueil que les frères de Jacob lui ont fait. Genèse 37, versets 18 à 25. Ils le virent de loin, et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Là, c'était un cran de plus. Hein. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Ruben, c'est le frère aîné. Donc, il avait un petit peu la responsabilité de ses frères. Ruben entendit cela, il le délivra de leurs mains. Il dit, « N'attendons pas à sa vie. » Il leur dit encore, « Ne versez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. » Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Parce qu'il faut dire aussi que Jacob l'avait revêtu d'un habit particulier. Donc, la différence de son amour pour Joseph était manifeste pour tout le monde, quoi. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Tranquille, ils s'assirent pour manger alors qu'ils venaient de jeter leur frère dans la citerne et qu'ils avaient eu des pensées de mort à son avis, quoi. Ensuite, alors que Ruben s'est absenté, on ne va pas tout lire parce que sinon ce serait trop long, Joseph a été vendu par ses demi-frères comme esclave à une caravane qui allait en Égypte. En Égypte, Joseph a ensuite été vendu à Potiphar, un officier de Pharaon. Joseph a ensuite été injustement accusé par la femme de Potiphar et s'est retrouvé en prison. Quand Joseph s'est retrouvé en prison, il nous est dit en Genèse 39, « L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison. Et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph. » Parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Et puis après cela, on voit le rétablissement de Joseph qui commence. Même après cette nouvelle épreuve, Joseph a gardé une relation avec son Dieu. Joseph est resté plus de 2 ans en prison. Et suite à un concours de circonstances, Joseph a été appelé auprès de Pharaon pour expliquer 2 rêves que les conseillers et les magiciens de Pharaon ne pouvaient expliquer. Joseph a expliqué au Pharaon que Dieu lui faisait connaître qu'il y aurait 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Joseph a ensuite conseillé à Pharaon de mettre un intendant pour mettre de côté du blé pendant les 7 années d'abondance pour avoir assez de nourriture pour les 7 années de famine. Pharaon a nommé Joseph à ce poste d'intendant. Il nous est dit en Genèse 41, « Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. C'était le signe qui lui déléguait sa puissance. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Alors, les 7 années d'abondance se sont passées. Puis ensuite, il y a eu la disette. Tous les pays se sont retrouvés dans un temps de famine, sauf l'Égypte. C'est dans ce contexte de famine que les frères de Joseph sont descendus en Égypte pour acheter de la nourriture. Parce que dans tous les pays environnants, on mourait de faim, mais on savait qu'en Égypte, il y avait encore de la nourriture. On est environ à ce moment-là, 12 à 13 ans, après que Joseph ait été vendu par ses frères comme esclave. Et on lit en Genèse 42 les retrouvailles, puisque les frères de Joseph sont descendus chercher du blé. Évidemment, ils ont rencontré celui qui gérait les ressources. Genèse 42, versets 7 et 8. « Quand Joseph vit ses frères, il les reconnut, mais il se comporta en étranger vis-à-vis d'eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous ? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Si Joseph reconnut ses frères, eux ne le reconnurent pas. Évidemment, après 12-13 ans, pour eux, il était mort, quoi. Vendu comme un esclave, les esclaves en Égypte, voilà, leur durée de vie est tout à fait aléatoire. Pour eux, il était sorti de leur environnement, de leur espace de vie. À ce moment-là, Joseph a utilisé tout un stratagème avec des mises à l'épreuve de ses frères et des allers-retours en Canaan pour faire venir Benjamin en Égypte et amener ses frères à la reconnaissance de leurs fautes et à un changement d'attitude profond. Alors là, il faut expliquer quand même que Benjamin, c'est le jeune frère de Joseph. Mais c'est son vrai frère, ce n'est pas son demi-frère. Il est le fils de sa mère et de son père. Mais il est né plus tard. Il est né pendant que Joseph était déjà en Égypte. Et là, Joseph, dans la discussion avec ses frères, apprend qu'il a non seulement un frère, mais un vrai frère qu'il ne connaît pas. C'est à ce moment-là que Joseph révèle son identité à ses frères. Et au même moment, il leur pardonne leur faute. Les deux allaient de pair, quoi. On lit dans Genèse 45, les versets 4 à 7. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas, ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays. Et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour, ni labourage, ni boisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. » Joseph a vu et compris que Dieu a changé le mal en bien. Il n'avait pas de haine entre ses frères. Et s'il n'avait pas de haine ou de rancœur entre ses frères, c'est parce qu'il leur avait pardonné au profond de lui. Alors ce que j'ai expérimenté, moi, dans mon expérience, c'est que pour pouvoir pardonner, il faut avoir accepté les conséquences de ce que l'on a subi. Et dans notre exemple, Joseph n'avait pas de rancœur contre ses frères. Quel est son secret ? C'est très intéressant de le remarquer. On lit quelques passages et j'ai mis en gras dans les textes les mots qui ont attiré mon attention. Genèse 37, les versets 1 à 4. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du Pharaon, donc c'est au tout début de son arrivée en Égypte, l'officier du Pharaon, qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Et là, c'est intéressant, l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. C'est intéressant de voir que Potiphar n'a pas vu en Joseph la réussite d'un homme ou d'un surhomme. Il a compris que l'Éternel était avec lui. Et moi, je pense que c'est lié au fait que Joseph avait à ce moment-là une relation de proximité avec son Dieu. Quand Joseph s'est retrouvé en prison ensuite, regardons ce qui s'est passé. Genèse 37, les versets 21-23, « L'Éternel fut avec Joseph. » Ça commence comme ça. « Et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Et ensuite, lorsque Joseph est appelé auprès de Pharaon, on lit en Genèse 41, les versets 15 et 16, « Le Pharaon dit à Joseph, j'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Joseph a répondu au Pharaon, « Ce n'est pas moi. » C'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Joseph dit au Pharaon, ce qu'a rêvé le Pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années et les 7 beaux épis aussi, c'est un seul rêve. Les 7 vaches décharnées et laides sorties après les premières sont 7 années, tout comme les 7 épis vides brûlés par le vent d'Est. Ce sont 7 années de famine. C'est comme je viens de le dire au Pharaon, Dieu au Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte. 7 années de famine les suivront et l'on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si le Pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Ce qui est intéressant de voir là, c'est que Joseph s'est effacé devant Pharaon et il a mis Dieu à la première place. Il a mis Dieu à la place qui lui revient en fait. Joseph est resté dans cette dépendance de Dieu. Et Joseph agissait comme cela, et moi j'en suis persuadé, parce qu'il était proche de Dieu. Ce n'est pas marqué noir sur blanc dans le texte, mais pour moi, c'est une évidence. Donc en résumé, le pardon a été rendu possible ou facilité parce que Joseph avait d'une part accepté les conséquences des actes de ses frères, et cette acceptation avait ensuite été facilitée par une grande proximité de Joseph avec son Dieu. Alors personnellement, dans ce que j'ai vécu, au début, je n'arrivais pas à pardonner jusqu'au moment où j'ai accepté ce qui s'est passé, la tromperie dont j'avais été l'objet, mais aussi les conséquences de ce changement que ça avait entraîné dans ce que j'aurais voulu vivre finalement. Et c'est à partir de ce moment-là que la colère et la rancune ont commencé à descendre. Pour moi, l'acceptation des conséquences de ce que l'on a vécu est clairement le prix ou le coût du pardon. Et je peux maintenant faire mien ce verset, Romains 8, 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Quand il est écrit que tout contribue, cela peut être aussi des situations difficiles, évidemment. Même des situations qui n'auraient pas dû arriver. Et cela contribue au bien parce que Dieu maîtrise toutes choses. Mais justement, on arrive à une autre question à laquelle il faut donner une réponse. La question que Dieu change le mal en bien. Comment comprendre ça? Dieu qui est 3 fois saint, comment est-ce qu'il peut avoir affaire avec le mal pour le changer en bien? Faisons une petite parenthèse. Comment Dieu qui ne supporte pas le mal et le péché peut-il changer le mal en bien? C'est-à-dire, comment Dieu peut-il, entre guillemets, intégrer dans ses plans les péchés et les mauvaises actions des hommes? Parce que c'est ça en fait. Alors Dieu règne sur le monde. Dans sa toute-puissance, il intègre nos actions pour réaliser ses plans. Même si nos actions ne sont pas forcément bonnes. Mais en aucun cas, et c'est ça qui est important, en aucun cas il ne cautionne les blessures que les hommes s'infligent. Dieu règne, il fait en sorte que son œuvre d'amour se continue malgré les blessures que nous pouvons vivre. Dieu intègre ces blessures à son plan, mais attention, il n'en est pas l'auteur, il ne les cautionne pas. Dans Genèse 45, lorsque Joseph pardonne à ses frères le fait de l'avoir vendu comme esclave en direction de l'Égypte, il ne justifie pas l'acte de ses frères. Il dit juste que Dieu a permis que cet acte n'entrave pas la réalisation de sa volonté. Et je vous propose de relire Genèse 45, les versets 4 à 7. C'est important cette nuance, parce qu'après ça change aussi la façon comment on le vit. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent de lui. « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas, ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Et là, on voit, il ne leur dit pas que c'était une bonne chose. Il leur dit que Dieu l'a changé en bien. « Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. C'est Dieu qui est là derrière. Joseph rappelle le mal qui a été commis, et c'est comme s'il disait « Vous avez fait le mal, mais Dieu l'a changé en bien, car la bonté de Dieu est plus grande que le mal que vous avez fait. » C'est ça qu'il faut retenir. Dieu, dans sa préscience, connaît toutes les blessures qui vont se faire, mais il les a intégrées à son plan d'amour pour que les conséquences de ces blessures soient limitées et surtout qu'elles n'entravent pas son plan prévu de toute éternité. Plan d'amour inconditionnel. Mais le mal reste mal et doit être traité en tant que tel. D'où l'importance du pardon qui passe par cette acceptation des conséquences des blessures. Et le pardon permet la réconciliation, et la réconciliation permet la guérison. Un petit exemple de la plaie qui guérit. La blessure vécue par la tromperie ou toute autre forme d'exaction a une incidence sur notre être intérieur. Elle peut être comparée à une plaie qui a une incidence sur le fonctionnement de notre corps. Deux choses différentes, mais qui peuvent être comparées. Tant que la plaie n'est pas cicatrisée, elle empêche notre corps de vivre normalement. Quand la plaie est cicatrisée au niveau du corps, une trace reste visible. C'est la cicatrice. Mais la cicatrice nous permet de vivre normalement. Pour notre vie intérieure, c'est pareil. Tant que la blessure n'est pas pardonnée et donc acceptée, on ne vit plus normalement. Il y a la colère, il y a la rancœur, l'aigrissement, etc. Le pardon permet à la blessure de se cicatriser, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il reste des traces de la blessure, mais ces traces ne nous empêche pas de retrouver une vie normale avec nous-mêmes et avec notre entourage. Et c'est ça qui est important. En conclusion, vous rappelez le slogan de l'année 2019, « Un pas à la fois ». Mais j'ai envie d'ajouter « Un pas à la fois », ouais, mais dans quelle direction ? Lisons trois versets dans Matthieu 6. Là, vous allez peut-être vous dire, Philippe, il a pété un câble parce qu'on est complètement en dehors du sujet qu'il est en train de traiter. Matthieu 6, les versets 19 à 21, mais vous verrez, il y a un lien super intéressant. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors la question que je pose, c'est quoi les trésors dont il est question ici? Tout ce que je peux faire n'est rien face à la sainteté et la perfection de Dieu. Les trésors dont il est parlé là, ce n'est pas des choses qu'on peut faire. Le seul trésor que je peux amasser dans le ciel, depuis la terre, c'est de connaître Dieu. Avoir avec Dieu une vie de cœur à cœur. Être non seulement son enfant, mais aussi son ami. Vivre près de son cœur. Et là, on n'est plus dans le faire, on est dans l'être. L'être avec Dieu. La relation avec lui. Mais on doit rechercher cette intimité avec Dieu. Elle ne vient pas toute seule. En tout cas, elle ne vient pas forcément de nous en tant qu'êtres humains. C'est un don de Dieu. C'est pour ça qu'il faut la rechercher. Et je crois que c'est là un des secrets que Jacob avait trouvé. Il était proche du cœur de Dieu. Et en étant proche du cœur de Dieu, ça change tout. Je vous invite à avoir un petit temps de silence. Je vous invite à vous placer devant Dieu, à vous poser les questions suivantes. Est-ce que j'ai quelque chose à pardonner? Est-ce que j'ai quelque chose à accepter? Est-ce que je veux être près du cœur de Dieu? Être son ami, l'avoir pour confident? Être tellement proche de Dieu que j'en arrive à souhaiter ce qu'il souhaite j'en arrive à penser ce qu'il pense. Restons quelques instants dans le silence. Si une personne ou deux veulent prier, sentez-vous libre. Sinon, je terminerai par la prière. Oui, Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci pour qui tu es. Merci pour ton amour. Merci pour ton plan qui est là d'éternité en éternité, pour ce plan d'amour pour chacun de nous. Merci parce que tu pardonnes, tu nous pardonnes, tu nous réconcilies avec toi. Merci parce que toi qui es saint, tu nous as réconciliés avec toi. Tu as fait de nous tes enfants. Oui Seigneur, merci parce que tu nous donnes ta parole pour nous enseigner, pour nous conduire vers toi, pour nous aider à nous rapprocher de ton cœur, pour nous aider à te connaître, pour nous aider à être ton ami, à être proche de ton cœur, à être proche de ce que tu souhaites, à te connaître vraiment comme nul ne peut te connaître. Merci Seigneur parce que tu désires nous faire avancer dans la bonne direction, dans la direction qui nous rapproche de toi, dans cette direction qui nous rapproche aussi de l'éternité que nous passerons dans ta présence. Merci parce que c'est ce que tu souhaites, merci parce que tu nous as tout donné pour l'accomplir. Sois loué et sois béni Seigneur pour ton œuvre d'amour qui est simplement parfaite et magnifique. Amen.
Ok, merci pour ce voyage au cœur du pardon. Je suis d'accord avec toi, Joseph, c'est intéressant d'y revenir. Moi, il y a un truc qui m'a frappé dans ce que tu partageais là, c'était pas par rapport au pardon, c'est tous ces passages où Dieu dit, où c'est écrit, Dieu était avec lui et il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. C'est pas dit exactement comme ça, mais c'est le sens, c'est au moins 3-4 fois dans les passages que tu as lus. Et j'ai eu la chance d'aller en Égypte il y a quelques années, peut-être vous y êtes allé aussi, je suis en train d'y réfléchir. Il y a au sud du Caire, il y a une pyramide qui s'appelle la pyramide de Djéser. Vous avez déjà dû la voir en photo, peut-être une pyramide qui est en degrés comme ça. Et il semble que cette pyramide ait été établie sous le règne, quand Joseph était superintendant en Égypte là. Et j'aime cette idée de me dire que ça a pu traverser les âges et que ça, on peut le voir encore, on peut le toucher. C'est pas une belle histoire qui est écrite dans la Bible, un truc qui n'existe pas, qui est juste dans la Bible, c'est une réalité, Joseph qui était là, et de la même réalité que va être le pardon dans nos vies. Et on peut penser aussi à cette petite pyramide de Djéser. Les annonces pour cette semaine, le culte dimanche prochain, vous commencez à être habitué au rythme de l'été. À la deuxième annonce que je fais tous les dimanches, qui est de vous inscrire pour le week-end de Champs Fleuris qu'on aura le 7 septembre, 7 et 8 septembre. Je vous dis de vous inscrire, c'est important, vous êtes déjà beaucoup inscrits. Et il reste quelques places, ça veut dire qu'on est limite au niveau de la capacité. Alors ce message, ça ne veut pas dire ne vous inscrivez pas si vous n'êtes pas encore inscrit. Au contraire, il faut vous inscrire, c'est temps. Mais faites-le assez rapidement pour qu'on puisse s'organiser, pour regrouper éventuellement les gens dans des chambres, pour gagner un peu de place. Et pas besoin d'être membre de l'Église depuis 70 années pour s'inscrire à ce week-end, même si vous n'êtes pas membre de l'Église, même si vous venez que depuis un petit moment, même si c'est la première fois que tu viens aujourd'hui, j'ai envie de dire, tu peux venir à ce week-end, c'est un bon moment de se découvrir les uns les autres et de bien démarrer l'année, j'ai envie de dire. Donc les inscriptions, vous pouvez vous inscrire au fond sur le panneau qui est là, ou bien vous venez voir Nancy, ou bien moi, on vous expliquera. Une annonce de la librairie. La librairie, je suis passé cette semaine, ils étaient en train de tout trier. J'ai jamais vu, je savais pas qu'on avait autant de livres en fait, moi. Un chenille qui est là-bas dedans, ils ont tout trié. Donc vu qu'ils ont tout trié, tout fait beau, ils en ont profité pour faire passer un petit mot que je vous lis. Et je vous le lis, il est tout bien écrit. La librairie vous propose des livres à prix réduit sur la table au fond, ainsi que des petits prix sur les CD. Vous trouverez aussi de quoi vous changer les idées pendant les vacances avec nos jeux, livres, CD et de quoi envoyer vos nouvelles à vos êtres chers avec nos cartes. N'hésitez pas à venir nous trouver, nous sommes à votre disposition. Thérèse et Pascal qui n'est pas là. Elle n'est pas là ? Ouais. Donc Thérèse, si jamais... Lève la main Thérèse, qu'on voit, c'est qui la librairie ? Parce que si jamais... Voilà, puis merci pour ce boulot de tri que vous avez fait au cœur de l'été. Encore avant de terminer, une petite pensée, je réfléchissais, en fait on a beaucoup d'enfants qui sont en camp actuellement et qui vont partir la semaine qui arrive. En fait il y en a plein, je dis ça parce que je suis un peu touché. Moi j'en ai 3 qui vont partir au même camp, mais ce camp de la JAB, certains sont déjà à la JAB, là d'autres vont y aller. Mais il y a notamment les plus petits qui vont partir, donc les 3 miens, Joaquin, Anaïs, Alice. Il y a Elliot, Naomi, Il y a Baptiste, il y a Marie, je dis pas de bêtises. J'ai dit une bêtise, il y avait Marie. J'ai cru. Donc voilà, peu importe ce camp ou d'autres, mais ça peut être un temps aussi, on n'a pas beaucoup de réunions, mais pour penser à nos enfants et qu'ils puissent être touchés par la parole pendant ces camps, simplement vivre de bons moments aussi avec d'autres. Quoi. Donc voilà, on peut y penser cette semaine. J'ai oublié aucune annonce, je crois. Le thé café dimanche prochain, merci, je l'avais oublié, négligé. Alors qu'en plus, il fait beau, c'est cool de venir au thé café, venez avant, 9h30, 10h, vous prenez vos petits cafés, après on est bon pour le culte. Encore juste vous dire que Philippe, le pasteur, n'est pas là cette semaine, il est en vacances, donc ça ne sert à rien d'essayer d'aller le trouver au bureau, il ne sera pas là. Donc voilà, il profite. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.